Bonjour et bienvenue sur BACFM. C'est dans le cadre des Nuits de la Lecture qui se déroulent du 21 au 25 janvier 2026 que nous vous proposons l'émission Voix des villes, voix des champs. Ce sont les élèves de la classe de seconde C du lycée Raoul Follereau qui vont réaliser des lectures expressives sur le thème des villes et des campagnes.
Petite ville de campagne, petite ville sans bagne, attends le soir.
Extrait du roman Wonderland d'Alexandre Labruf, publié en 2021. Avant, l'autoroute, 7 heures de trajet, quelques stops prolongés dans des stations-service désertes et post-futuristes, la poésie déchirante des non-lieux, la traversée des Landes, les routes bordées de platanes, encerclées de pins, dans les fossés, les yeux luisants des chevreuils, puis l'arrivée, toujours surnaturelle, sous la lune. Notre maison familiale, une ancienne ferme landaise, se trouve au milieu d'une pinède, isolée de tout. On y accède par un chemin de terre d'un kilomètre. Il fait nuit. Au bout du chemin, dans les riales, à côté des granges, les pleins phares éclairent un lapin démesuré, massif et majestueux, qui nous observe avant de s'enfuir derrière la BMW 2002 Turbo Vintage du paternel.
Extrait du roman « Zazie dans le métro » de Raymond Queneau, publié en 1959. Comme concitoyens et commères continuent à discuter le coup, Zazie s'éclipsa. Elle prit la première rue à droite, puis celle à gauche, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'une des portes de la ville. De superbes gratte-ciels de 4 ou 5 étages bordaient une somptueuse avenue sur le trottoir de laquelle se bousculaient de pouilleux éventaires. Une foule épaisse et mauve dégoulinait d'un peu partout. Une marchande de ballons lamoricière, une musique de manège ajoutaient leurs notes pudiques à la virulence de la démonstration. Émerveillée, Zazie mit quelque temps à s'apercevoir que, non loin d'elle, une œuvre de ferronnerie baroque plantée sur le trottoir se complétait de l'inscription « Métro ». Oubliant aussitôt le spectacle de la rue, Zazie s'approcha de la bouche, la sienne sèche d'émotion.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille.
Extrait du roman Danser encore de Charles Aubert, publié en 2023. Souvent, Rukeli part se promener avec Olga dans la forêt de Tegel. À certaines heures de la journée, quand les rayons du soleil percent la cime des arbres, quelque chose dans l'air se met à vibrer, comme quand ils s'endormaient, enfants, dans les bras des grands chênes. Ici aussi, il y a un très grand chêne. Il a plus de 800 ans, et on l'appelle Dique Marie, la grosse Marie. Rukeli aime caresser son écorce. Il appuie son oreille sur le tronc et attend un message qui tarde à venir. Il imagine tous les combats qu'a dû mener le vieil arbre, les drames qui se sont joués sous sa frondaison verdoyante, les amours qu'il a abrités. 800 ans qu'il danse dans le vent, 800 ans qu'il observe les hommes. Rukeli insiste, appuie son oreille plus fort, l'arbre a forcément quelque chose à lui dire, mais pour le moment, il n'arrive pas à l'entendre.
Thank you. extrait du roman du même bois de Marion Fayol, publié en 2024. Depuis la ferme, on devine les bus, les touristes au loin, ça fait des touches de couleurs tout autour de la montagne. Des teintes qu'on ne trouve pas ici. Du jaune fluo, des motifs qui bougent, qui escaladent, qui flânent, cherchent quelque chose. C'est là, au pied de ce pâté de roches, que la Loire prend sa source. Ils sont tous là pour ça, voir jaillir un fleuve, assister à une naissance. Au début, c'est minuscule, juste des filets d'eau. Les gens d'ici, ils appellent les montagnes des sucs. Et on dirait les sucs d'une montagne justement, ce liquide qui perle entre ces blocs de phonolite. On voit bien qu'elle transpire, qu'elle pleure, qu'elle sécrète, qu'elle perd les os en permanence. Elle accouche sans douleur devant une foule de photographes.
Poème extrait du recueil Poésie de Michel Houellebecq, publié en 2020. Nature, je ne jalouse pas ces pompeux imbéciles qui s'extasient devant le terrier d'un lapin, car la nature est laide, ennuyeuse et hostile. Elle n'a aucun message à transmettre aux humains. Il est doux, au volant d'une puissante Mercedes, de traverser des lieux solitaires et grandioses, manœuvrant subtilement le levier de vitesse. On domine les monts, les rivières et les choses. Les forêts toutes proches glissent sous le soleil et semblent refléter d'anciennes connaissances. Au fond de leurs vallées, on presse des merveilles. Au bout de quelques heures, on est mis en confiance. On descend de voiture et les ennuis commencent. On trébuche au milieu d'un fouillis répugnant, d'un univers abject et dépourvu de sens, fait de pierres et de ronces, de mouches et de serpents. On regrette les parkings et les vapeurs d'essence, l'éclat serein et doux des comptoirs de nickel. Il est trop tard, il fait froid, la nuit commence. La forêt vous étreint dans son rêve cruel.
Extrait du roman « Les vrilles de la vigne » de Colette, publié en 1908. Il y a encore, dans mon pays, une vallée étroite comme un berceau où, le soir, s'étire et flotte un fil de brouillard, un brouillard ténu, blanc, vivant, un gracieux spectre de brume couché sur l'air humide. Animé dans le mouvement d'onde, il se fond en lui-même et se fait tour à tour nuage, femme endormie, serpent langoureux, cheval à coups de chimère. Si tu restes trop tard penché vers lui sur l'étroite vallée, à boire l'air glacé qui porte ce brouillard vivant comme une âme, un frisson te saisira, et toute la nuit, tes songes seront fous. Écoute encore, donne tes mains dans les miennes, si tu suivais, dans mon pays, un petit chemin que je connais, jaune et bordé de digitales d'un rose brûlant, tu croirais gravir le sentier enchanté qui mène hors de la vie. Le chant maudissant des frelons fourrés de velours t'y entraîne, et bat à tes oreilles comme le sang même de ton cœur, jusqu'à la forêt, là-haut, où finit le monde.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mâles vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Poème extrait du recueil « La forêt barbelée » de Gabriel Filtoshiba, publié en 2024. Réfugié. Je suis une réfugiée de campagne qui préfère à la ville, la forêt estuaire, ses caps secrets. Je suis une ermite bloquée qui fuit les foules. Car mes lits de lichen sont belvédères. Promesse de licence, je lisse des montagnes nues, caresses crevasses. Mancre roc, livre ouvert, j'ai acquis 1000 épicéas condamné l'accès. Barré la grille qui grinçait. Je me campe ici pour de bon. Bercer ce mauvais pressentiment, hôtesse, aiguise mes sens, déteint sur moi.
Je flaire des présences, entends des pas.
Extrait du poème La Plaine, tiré du recueil Les villes tentaculaires de Émile Verhaeren, publié en 1895. La Plaine. La Plaine est morne, hélas, et ne se défend plus. La Plaine est morne et morte, et la ville la mange. La noire immensité des usines rectangulaires, telle une bête énorme et taciturne qui bourdonne derrière un mur. Le ronflement s'entend, rythmique et dur des chaudières et des meubles nocturnes. Le sol vibre, comme s'il fermentait. Le travail boue, comme un forfait. L'égout charrie une fange velue vers la rivière qu'il pollue.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes. Poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau. Reste notre idéal, faire les beaux. Balance, quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses.
Extrait du roman Cimetière de Stephen King, publié en 1983. Le sentier suivait toujours une pente descendante. Après avoir zigzagué entre des sapins aux allures vénérables, il coupait en ligne droite une assez grande étendue de taillis enchevêtrés de ronces. À cet endroit, il y a bel et bien de la gadoue. Les bottes de Louis s'enfonçaient dans une boue molle, parfois couronnée d'eau stagnante. Ils arrivèrent bientôt à une zone carrément marécageuse, qu'ils franchirent malaisément en prenant appui sur les grosses mottes de terre herbues qui affleuraient à la surface. Mais après ce passage un peu dur, les choses s'arrangèrent. Le sentier gravissait un raidillon et il était à nouveau bordé de hautes futaies. Louis eut l'impression que Gage avait magiquement doublé de poids et que par l'effet d'une magie concomitante, la température s'était subitement élevée de 6 ou 7 degrés. Une sueur abondante lui ruisselait sur le visage.
Extrait du roman Claudine à Paris de Colette, publié en 1900. Le parc Monceau, vert, avec ses pelouses tendres voilées de jets d'arrosage en rideaux vapeureux, m'attire comme quelque chose de bon à manger. Il y a moins d'enfants qu'au Luxembourg. C'est mieux. Mais ces pelouses qu'on balaye comme des parquets? N'importe, les arbres m'enchantent et l'humidité que je respire m'alanguit. Le climat de Paris est ignoblement chaud tout de même. Ce bruit des feuilles, quelle douce chose.
Thank you. extrait du roman « Les conditions idéales » de Mokhtar Hammoudi, publié en 2023. Ainsi, l'endroit par lequel nous avions fui les collines noires se trouvait être le bout de mon patelin, sa limite méridionale. Jusqu'alors, je n'en avais connu que le sol, dans toutes ses variétés, de pelouse, goudron et bitume. Tous ces matériaux inoffensifs auxquels mes yeux se fixaient, pour ne croiser le regard de personne. Le grand quartier de Courcelles était immense, composé d'une douzaine de tours et de 10 bars aux fenêtres fleuries d'antennes paraboliques. Des terrains vagues et de petits stades de football espacés, le tout. Par la fenêtre de ma chambre, je voyais ces anciens horizons se rapprocher. Plutôt que de me calfeutrer, j'ai pris la décision de m'intéresser à mon environnement. En cas de nouvelles rencontres avec mes nouveaux ennemis, connaître le bornage du grand quartier, ses rues et ses entrées m'aideraient à mieux les fuir.
Je suis un jeune de banlieue, un jeune de banlieue, un jeune de banlieue. Un jeune de banlieue, un jeune de banlieue. Je suis un jeune de banlieue, un jeune de banlieue, un jeune de banlieue.
Extrait du roman Le Père Goriot de Honoré de Balzac, publié en 1835. Rastignac, resté seul, fit quelques pas vers le haut du cimetière et vit Paris, tortueusement couché le long des deux rives de la Seine, où commençaient à briller les lumières. Ses yeux s'attachèrent presque avidement entre la colonne de la place Vendôme et le dôme des Invalides, là où vivait ce beau monde dans lequel il avait voulu pénétrer. Il lenta sur cette ruche bourdonnante un regard qui semblait par en avance en pomper le miel, et dit ces mots grandioses. « À nous deux, maintenant !»
Extrait du roman « Un roi sans divertissement » de Jean Giono, publié en 1948. Et, à l'automne, avec ses longs poils cramoisis, ses 1000 bras entrelacés de serpents verts, ses 100 000 mains de feuillage d'or jouant avec des pompons de plumes, des lanières d'oiseaux, des poussières de cristal, il n'était vraiment pas un arbre. Les forêts, assises sur les gradins de montagne, finissaient par le regarder en silence. Il crépitait comme un brasier. Il dansait comme seuls savent danser les êtres surnaturels, en multipliant son corps de son immobilité. Il ondulait autour de lui-même dans un entortillement d'écharpes, si frémissant, si mordoré, si inlassablement répétri par l'ivresse de son corps qu'on ne pouvait plus savoir s'il était enraciné par l'encramponnement de prodigieuses racines ou par la vitesse miraculeuse de la pointe de toupie sur laquelle reposent les dieux.
There is a big tree in my garden. A big tree in my garden. In the winter he protect me from the snow. In the summer he get to me some shadow. In the spring he give to me some sweet fruits. During the autumn on the branch of the leaf are gone.
Extrait du roman Un roi sans divertissement de Jean Giono, publié en 1948. Le être de la Syrie n'avait pas encore, certes, l'ampleur que nous lui voyons, mais sa jeunesse, enfin tout au moins par rapport avec maintenant, ou plus exactement son adolescence, était d'une carrure et d'une étoffe qui le mettait à 100 coudées au-dessus de tous les autres arbres, même de tous les autres arbres réunis. Son feuillage était d'un dru, d'une épaisseur, d'une densité de pierre, et sa charpente, dont on ne pouvait rien voir, tant elle était couverte et recouverte de rameaux plus opaques les uns que les autres, devait être d'une force et d'une beauté rares pour porter avec tant d'élégance tant de poids accumulé. Il était surtout, à cette époque, pétri d'oiseaux et de mouches. Il contenait autant d'oiseaux et de mouches que de feuilles. Il était constamment charrué et bouleversé de corneilles, de corbeaux et d'essaims. C'était autour de lui une ronde sans fin d'oiseaux, de papillons et de mouches, dans lesquels le soleil avait l'air de se décomposer en arc-en-ciel, comme à travers des jaillissements d'embrun.
Extrait du roman « Exercice de style » de Raymond Queneau, publié en 1947. Désinvolte. Je monte dans le bus. C'est bien pour la porte Champéret ?
Vous savez donc pas lire.
Excuse. Il moue mes tickets sur son ventre.
Voilà.
Merci. Je regarde autour de moi.
Dis donc vous.
Il a une sorte de galon autour de son chapeau.
Vous pourriez pas faire attention.
Il a un très long cou.
Non mais dis donc.
Le voilà qui se précipite sur une place libre.
Eh bien,
je me dis ça.
J'ai des rides et des poches sous les yeux, les cheveux poivre et sel et l'arthrose m'en veut. À chaque check-up, ça ne va pas mieux. J'ai la carte vermeille et la retraite, je suis vieux. Les blouses blanches analysent ma pisse, testent ma prostate, me parlent d'hospice. Les gosses dans le bus me cèdent leur place. Et quand je me casse, ils parlent en verlan, style te malieux. Si les mots sont pioches, c'est ma tombe qu'ils creusent. Mais je dois rester droit malgré mon dos. Ma scoliose et salaud de l'imbago, j'étais une sommité. La qualité, j'ai bien travaillé, j'étais respecté. De juvénile après retraité, je n'ai pas profité, ma vie j'ai raté.
Nous allons faire une courte pause dans les lectures expressives et laisser place aux morceaux de la musique choisis par les élèves de seconde C. À la campagne de Benabar.
À la campagne, il y a toujours un truc à faire. Aller aux champignons, couper du bois, prendre l'air. À la campagne, on se fout des horaires. Comme les maisons du même nom, c'est secondaire. À la campagne, y a toujours un truc à voir. Des sangliers, des hérissons, des vieux sur des tracteurs. À la campagne, y a des lieux pleins d'histoires. Des châteaux tout cassés et des arbres centenaires. À la campagne, quand on est citadin, à la campagne, on demande aux paysans le temps qu'il fera demain. À la campagne, on veut de l'authentique, du feu de cheminée et du produit régional. À la campagne, il nous faut du rustique, un meuble qui n'est pas en bois, ça nous ruine le moral. À la campagne, on dit qu'on voudrait rester. C'est Paris, le bruit, le stress et la pollution. À la campagne, c'est la fête aux clichés. La qualité de vie et le rythme des saisons. À la campagne, on se prête des pulls quand on traîne sur la terrasse. À la campagne, il y a des jeux de société auxquels il manque des pièces. À la campagne, la nuit on ferme des volets. Il y a des bruits dans la maison et dehors dans la forêt. À la campagne, dans mon lit, plutôt que rêver, je préfère pas fermer l'œil et filer. À la campagne, en principe, on se lève tôt. Pas moi, je dors encore pour les raisons que vous savez. À la montagne, il y a des chalets, des chamois. Mais c'est pas l'objet de cette chanson. Je voulais juste voir si vous suiviez. À la campagne, quand arrive le dimanche soir. À la campagne, pour éviter les bouchons, on va peut-être pas rentrer trop tard. À la campagne, j'ai envie d'être campagnard, d'avoir une grosse moustache et un gilet en velours. À la campagne, j'ai envie de parler terroir. Je m'en vais à sacler le calanchet pour pas qu'il vente dans les labours. Ça me donne envie d'être robuste et taiseux. Le patriarche bourru d'une série de l'été de France 2. L'histoire d'une famille qui lutte pour son domaine. Mais j'ai jamais le temps parce que je reste que le week-end. À la campagne, entends-tu au loin le cri de la grivette cendrée. À la campagne, s'il neige
neige et la Noël, je rentrerai les bistouquets dans les tables.
Dans le cadre des Nuits de la Lecture qui se déroulent du 21 au 25 janvier 2026, nous revenons sur Bac FM pour continuer les lectures expressives de textes sur le thème des villes et des campagnes.
Extrait du roman « Pourquoi être heureux quand on peut être normal » de Janet Winterson, publié en 2011. Je suis née à Manchester en 1959. C'était un bon endroit pour venir au monde. Manchester est situé au sud du nord de l'Angleterre. L'esprit des lieux renferme une contradiction. L'imbrication nord-sud qui la rend sauvage, provinciale et pourtant connectée, ouverte sur le monde. Manchester a été la première ville industrielle au monde. Ses filatures et ses manufactures l'ont transformé autant qu'elles ont transformé le destin de la Grande-Bretagne. Parcouru de canaux, Manchester possédait un accès facile au grand port de Liverpool et des lignes ferroviaires qui transportèrent les penseurs et les hommes d'action jusqu'à Londres. Son influence s'est étendue à la planète. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. Should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding.
Extrait du roman « Exercice de style » de Raymond Queneau, publié en 1947, « Homéo Téleut ». Un jour de canicule sur un véhicule où je circule, gesticule un phénombule au bulbe minuscule, à la mandibule en virgule et au capitule ridicule. Un somnambule l'acule et l'annule. L'autre articule, crapule, mais il dissimule ses scrupules, recule, capitule et va poser ailleurs son cul. Une hule à prule, devant la gueule sans l'azule, je l'aperçule qui discule à propos de boutule. De boutules de par-dessus.
Extrait du roman « Claudine à Paris » de Colette, publié en 1900. Eh bien, ce n'est pas si terrible de sortir seule dans Paris. J'ai rapporté de ma petite course à pied des observations très intéressantes. 1. Il fait plus beaucoup plus chaud qu'à Montigny. 2. On a le dedans du nez noir quand on rentre. 3. On se fait remarquer quand on stationne seul devant les kiosques à journaux. 4. On se fait également remarquer quand on ne se laisse pas manquer de respect sur le trottoir.
Alors je m'enfonce dans Paris comme si c'était la première fois. Je découvre des paysages que j'ai pourtant vus 500 fois. Je crois que mon lieu de rendez-vous sera cette table en terrasse. Café, croissant, stylo, papier, ça y est, tout est en place. Je vois plein de gens autour de moi qui accélèrent le pas. Ils sont pressés et je souris car moi je ne le suis pas. Je connaissais pas Paris le matin et son printemps sur les pavés. Ma vie redémarre pourtant, on peut pas dire que j'en ai bavé. La route est sinueuse, je veux être l'acteur de ses tournants. C'est mon moment de liberté, je laisserai pas passer mon tour, non.
Extrait du roman Alien de Phoebe Hadjimarcos-Clark, publié en 2024. La nature telle qu'elle se l'imagine et la vie qu'elle se projette dans la nature, elle sait bien que c'est des fantasmes. Sous sa couette, au milieu de 10 000 rues, de 10 000 routes, cernée par des tunnels ou des ponts qui ondulent, écoutant d'une oreille les chuchotements de son appli de méditation, censée apaiser son angoisse chronique. Elle se dit que cette nature-là n'existe plus depuis longtemps, si tant est qu'elle n'ait jamais existé. Elle sait que la campagne, c'est aussi et peut-être avant tout des centres-villages en proie à la désolation, des zones commerciales dévorant les friches, les jardins et les pâturages, des individus véhiculés et solitaires sillonnant un territoire aussi étranger que la lune. Pourtant, elle a eu hâte d'être arrachée à la ville et à la violence qu'elle y flairait partout. Elle s'y sentait traquée, traquée par des ennemis. Partir, ça serait enfin leur échapper.
Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle.
Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin.
Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme.
Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur.
Extrait du roman Les Hauts de Hurlevent de Emily Bronte, publié en 1847. Wuthering Heights, Les Hauts de Hurlevent, tel est le nom de l'habitation de M. Heathcliff. Wuthering est un provincialisme qui rend d'une façon expressive le tumulte de l'atmosphère auquel sa situation expose cette demeure en temps d'ouragan. Certes, on doit avoir là-haut un air pur et salubre en toute saison. La force avec laquelle le vent du nord souffle par-dessus la crête se devine à l'inclinaison excessive de quelques sapins rabougris plantés à l'extrémité de la maison. Il y a une rangée de maigres épines qui toutes étendent leurs rameaux du même côté, comme si elles imploraient l'aumône du soleil. Heureusement, l'architecte a eu la précaution de bâtir solidement. Les fenêtres étroites sont profondément enfoncées dans le mur et les angles protégés par de grandes pierres en saillie.
Extrait du roman Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf, publié en 1907. Percé là-haut dans les airs, le garçon contemplait la mer et l'archipel étendus au-dessous de lui et leur trouvait un air étrange et fantomatique. Le ciel n'était plus bleu, mais tendu sur sa tête comme une coupole vitrée verte. La mer était d'un blanc laiteux. Aussi loin que portait son regard, il voyait de petites vagues rouler leurs crêtes d'écume argentée. Sur toute cette blancheur, la multitude d'îles de l'archipel trancées en un noir d'encre. Grandes ou petites, plates ou rocailleuses, toutes semblaient aussi noires. Oui, même les maisons, les églises et les moulins à vent, d'ordinaire rouges et blancs, se dessinaient en noir sur le ciel vert. Le garçon avait l'impression que sous lui, la terre était changée, qu'il avait pénétré dans un autre monde.
Extrait du roman « L'amie prodigieuse » d'Elena Ferrante, publié en 2011. Nous décidâmes de ne pas aller à l'école et de franchir les frontières de notre quartier. Ça ne nous était jamais arrivé. Aussi loin que je me souvienne, je ne m'étais jamais éloignée de nos immeubles blancs de 4 étages, de notre cour, de la paroisse et du jardin public, et n'en avais jamais éprouvé le désir. Des trains passaient toute la journée au fond de la campagne, des voitures et des camions allaient et venaient sur le boulevard, et pourtant, je ne me rappelle pas la moindre occasion où j'aurais pu demander à mon père, à la maîtresse ou à moi-même, mais ils vont où ces trains, ces voitures, ces camions? Dans quelle ville? Dans quel monde?
You
extrait du roman Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, publié en 2015. Les quais de la Seine sont moins sauvages que ceux de la Loire. Les champs ont laissé place à des promenades plantées, les hérons à des pigeons, les cyclistes à des parents à poussettes. On passe de ville de banlieue en ville de banlieue, et pour moi, c'est une terre inconnue. Ce fleuve gris-pierre bordé de barres d'immeubles, de petits commerces, de mecs assis par terre qui funent et nous alpaguent quand on passe, et j'ai l'habitude des bleds et des villages. Pas des étendues de ciment octroyant quelques menus espaces aux arbres. Ça ne sent plus rien, ici. Je sais qu'il y a des gens qui disent que Paris pue la clope, ou la pisse, ou la pollution. Mais ce qui me frappe tandis qu'on se rapproche de la capitale, ce n'est pas l'odeur, c'est le manque d'odeur. Je ferme les yeux sur mon vélo et il n'y a plus dans l'air les parfums poussiéreux des champs de céréales. Ni ceux, acres, d'eau stagnante, ni ceux, frais et forts, des arbres grosses racines.
Extrait du roman « Kif Kif Demain » de Faïza Gen, publié en 2004. Ma mère, elle s'imaginait que la France, c'était comme dans les films en noir et blanc des années 60. Ceux avec l'acteur beau gosse qui raconte toujours un tas de trucs mythos à sa meuf, une cigarette au coin du bec. Avec sa cousine Bouchra, elle avait réussi à capter les chaînes françaises grâce à une antenne expérimentale fabriquée avec une couscoussière en inox. Alors, quand elle est arrivée avec mon père à Livry-Gargan en février 1984, elle a cru qu'il avait pris le mauvais bateau et qu'il s'était trompé de pays. Elle m'a dit que la première chose qu'elle avait faite en arrivant dans ce minuscule F2, c'était de vomir. Je me demande si c'était les effets du mal de mer ou un présage de son avenir dans ce bled.
Extrait du roman « Les vrilles de la vigne » de Colette, publié en 1908. J'appartiens à un pays que j'ai quitté. Tu ne peux empêcher qu'à cette heure s'y épanouisse au soleil toute une chevelure embaumée de forêt. Rien ne peut empêcher qu'à cette heure, l'air profond rinoie les pieds des arbres, d'un verre délicieux et apaisant dont mon âme a soif. Viens, toi qui l'ignores, viens que je te dise tout bas le parfum des bois de mon pays égale la fraise et la rose. Tu jugerais, quand les taillis de ronces y sont en fleurs, qu'un fruit mûrit on ne sait où. Là-bas, ici, tout près, un fruit insaisissable qu'on aspire en ouvrant les narines. Tu jugerais, quand l'automne pénètre et meurtrit les feuillages tombés, qu'une pomme trop mûre vient de choir, et tu la cherches, et tu la flaires, ici, là-bas, tout près.
Extrait du roman « L'appel de la forêt » de Jack London, publié en 1903. Quelquefois, il partait dans la forêt à la poursuite de cet appel, comme s'il s'était agi d'une chose tangible, en aboyant, selon l'humeur, de façon paisible ou menaçante. Il fourrait son museau dans la mousse fraîche des bois, ou dans l'humus, où poussaient de longues herbes, et humait avec allégresse les parfums de la terre grasse. Ou bien, pendant des heures, il demeurait tapis, comme pour se cacher derrière des troncs d'arbres abattus, tapissés de champignons, guettant tout ce qui bougeait ou bruissait, autour de lui, de ses yeux et ses oreilles grands ouverts. Peut-être, ainsi aux aguets, espérait-il surprendre cet appel qu'il ne comprenait pas.
Extrait du roman Appel de la forêt de Jack London, publié en 1903. Il aimait courir dans les lits de cours d'eau asséchés où il s'approchait doucement pour épier les oiseaux dans les bois. Il pouvait rester toute une journée couché dans un sous-bois à observer des perdrix qui s'envolaient avec fracas ou qui marchaient en se pavanant. Mais par-dessus tout, il se plaisait à courir dans la pâle prénombre des nuits d'été, à écouter les murmures étouffés et confus de la forêt, à déchiffrer les signes et les bruits comme un homme lirait un livre, à chercher cette chose mystérieuse qu'il appelait, l'appelait à tout instant, qu'il fût éveillé ou endormi, et lui ordonner de venir.
Extrait du roman « Souviens-toi des abeilles » de Zineb Mekwar, publié en 2024. « Souviens-toi des abeilles », a dit Jedi, le jour où Omar a décidé de partir pour Agadir. « Souviens-toi des abeilles ». Tenter sa chance en ville, il n'en a plus envie à présent. Il n'a plus la force. La force, il la retrouve ici. À chaque fois, à Kalinu, Ardji, Mater, même aride, brûlé, c'est ce qu'Omar se dit. Il décide alors de rester, malgré la brûlure du soleil, donner sa chance au futur barrage, essayer de sauver ce qui peut encore être sauvé, reconstruire le rucher avec les autres, comme les hommes d'ici l'ont toujours fait. Reconstruire. De toute façon, quel avenir en ville ?
Extrait du roman La route de Cormac McCarthy, publié en 2006. La route traversait un marécage desséché, où des tuyaux de glace sortaient tout droit de la boue gelée. Pareil à des formations dans une grotte, les restes d'un ancien feu au bord de la route, au-delà une longue levée de ciment, un marais d'eau morte, des arbres morts émergeant de l'eau grise, auxquels s'accrochait une mousse de tourbière grise et fossile. Les soyeuses retombées de cendres contre la bordure. Il s'appuyait au ciment rugueux du parapet. Peut-être que dans la destruction du monde, il serait enfin possible de voir comment il était fait. Les océans, les montagnes, l'accablant compte spectacle des choses en train de cesser d'être. L'absolue désolation, hydropique et froidement temporelle, le silence.
Extrait du roman « Claudine à Paris » de Colette, publié en 1900. Un jour, à la lisière du bois des vallées, comme je regardais Montigny au-dessus de moi. Et les bois qui sont ceux que j'aime le plus au monde. Et les prés jaunes, et les champs labourés, leur terre fraîche et presque rose. Et la tour sarrasine, au-dessus, qui baisse tous les ans. Je vis si nettement, si clairement la bêtise, le malheur de partir, que je faillis courir et dévaler jusqu'à la maison. Pour supplier, pour ordonner qu'on décloître les caisses de livres et qu'on désentortillât les pieds des fauteuils. Pourquoi ne l'ai-je pas fait ? Pourquoi suis-je resté là, toute vide, avec mes mains froides sous ma capeline rouge ? Les châtaignes tombaient sur moi, dans leur coque, et me piquaient un peu la tête, comme des pelotons de laine où l'on a oublié des aiguilles à repriser.
Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Nous vous souhaitons une très bonne soirée sur Bac FM.